J'espère que vous avez retenu ce qu'il a dit et ce qu'il a montré avec l'écran. Donc le pluvier doré, c'est un oiseau de 130 grammes. Il vit en Alaska, en été, je le répète, parce que je pense qu'on est très oublieux. Il couve à terre, bon, et puis deux jours après, les petits, ils mangent tout seuls. Ils doivent s'assumer. Ils doivent picorer, manger, grossir. Au plus vite, parce que les froids vont arriver. La taille normale, c'est 130 grammes, ils doivent arriver à 200 grammes. 190 grammes, 200 grammes. Pourquoi? Parce que la réserve de graisse qu'ils vont avoir, il y a une programmation divine pour eux. Le temps que les petits achèvent leur croissance et leur réserve, les adultes sont déjà partis vers Hawaï, à 4500 km. Donc, les enfants vont devoir naviguer au-dessus des océans, où il n'y a pas d'île, il n'y a rien pour s'arrêter, juste 4500 km sans s'arrêter, sans leurs parents. Est-ce que vous avez donné à vos parents... Laissez-la. Est-ce que vous avez donné à vos enfants le moyen de voler sans vous, avec le Seigneur? Avec le Seigneur. Et de prendre le bon cap. Ça, c'est très important. Très important. Qu'est-ce que nous pouvons dire que nous avons réussi s'il n'y a pas ça? La vitesse de vol était de 55 km à l'heure, constante, en position. Parce que s'ils sont en pagaille, comme on aime bien la pagaille dans notre société, moi je, chacun fait ce qu'il plaît, eh bien ils n'arriveraient pas. 800 km avant, à Hawaï, ils n'ont plus de graisse, ils tombent dans l'eau. Parce qu'ils volent en formation, ils économisent de l'énergie et ils arrivent à Hawaï. Qui leur a dit? Qui leur a dit? J'ai pensé à ça et j'avais vu un film sur les phoques. C'est cette banquise, il y a de temps en temps un trou, vous voyez la tête d'un phoque qui passe et puis il se couche sur la glace et là comme ça, il a l'air de rien. Hein, il a l'air de rien comme ça. On le prend un peu pour un abruti d'ailleurs, hein, nous les intelligents. On va prendre des photos, on fait des films. Eh bien, il n'est pas abruti du tout. Quand il replonge, il chasse tout l'air qu'il y a dans les poumons. Pas d'air. Il est parti pour une heure sous l'eau. Et il n'a pas une corde, hein? Il n'a pas une corde, hein? Comme Jacques Cousteau ou Nicolas Hulot, une corde avec les spots et les hommes grenouilles, les caméras, pour retrouver le trou. Non. Simplement, par le pôle magnétique de la Terre et par les capacités qu'il a reçues en lui, il retrouve où est le trou. Il n'y a pas de GPS, il a mieux que ça. Dieu l'a équipé pour ça. Il retrouve son trou. Pas tous les trous, son trou. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il nage pendant une heure, il consomme tout l'oxygène que quand il était dehors, couché, là qu'on a l'air que c'est un fainéant, il a accumulé de l'oxygène plein ses muscles, plein son sang, plein son cœur, plein les os, partout. Et il l'accumule parce qu'il a un taux d'hémoglobine hyper élevé, 4 fois plus élevé que nous, il accumule plein d'oxygène. Donc quand il plonge, il ne prend pas d'air. Pourquoi? Parce que s'il prend de l'air et qu'il plonge et qu'il consomme l'oxygène de l'air, il produit du gaz carbonique et le gaz carbonique va lui faire perdre le cap. Ça va griser son mental, si vous voulez, il ne retrouvera plus son chemin. Il n'a pas besoin de cette air, cet oxygène, au moment où il plonge. Tout l'oxygène qu'il a pris dans l'air est en réserve. Et il chasse ce qui est dans ses poumons pour plonger pendant une heure. Est-ce que c'est possible que le phoque ait imaginé un système pareil tout seul? C'est Dieu qui a pensé à ça. Est-ce que le phoque a la capacité de penser à ça? Dieu a pensé que le phoque naviguerait comme ça, vivrait comme ça. Et quand vous le voyez couché sur la glace, là, ben, croyez bien, il est en train de faire les stocks d'oxygène, pas d'air. Il le prend dans l'air. Quand nous sommes à l'arrêt, quand nous sommes en train de méditer, quand nous sommes en train de dormir et que nous sommes réveillés, faisons-nous des stocks spirituelle? Faisons-nous des stocks spirituels? Ou sommes-nous comme on croit que les phoques sont stupides, qu'ils ne font rien? Sommes-nous des stupides? Ésaïe le dit, Ésaïe le dit. Stupide, qu'enfouirez-vous la stupidité? Jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Lorsque nous avons des moments d'arrêt, c'est pour faire le plein spirituel et pour vivre avec Dieu et emmagasiner les enseignements, les méditer les paroles de Dieu. Vincent s'est escrimé il y a 3-4 ans à faire des versets. Il a essayé, ça n'a rien donné, personne ne retenait un verset. Parce que vous n'aviez pas envie de faire des stocks. Que voulez-vous qu'on fasse? Si aujourd'hui Vincent reprend, c'est parce que nous savons qu'il faut des stocks spirituels. Quand nous sommes partis dans le train, dans le bus, dans l'auto, quand nous sommes malades à l'hôpital, que nous sommes entourés d'incroyants, quand nous nous sommes désemparés, nos stocks ressortent comme l'oxygène sur le phoque. Et s'il n'y a pas de stock, tant pis pour nous. On vivra avec des cachets, des piqûres dans les fesses. Et on fera quoi? On mourra avant l'heure parce qu'on n'a pas en nous la vie. On a la mort en nous. Alors, je reprends le thème du pluvier doré. Pour passer à autre chose, évidemment. Les petits, ayant terminé leur réserve, démarrent leur voyage qu'ils n'ont jamais fait et qu'ils referont dans l'autre sens, peut-être sans les adultes. Peut-être que les adultes sont trop vieux après, ils ont déjà fait deux fois, ils vont peut-être rester à Hawaï pour périr. Et eux reviendront pour nicher, faire les nids en Alaska. Ils feront tout de manière adulte, sans les adultes. C'est bizarre. Et ils arrivent également à Hawaï, à 4500 km. Une remarque d'importance, s'ils volaient tous librement, en pagaille, anarchiquement, comme nous les humains, nous aimons ça, eh bien, les réserves de graisse seraient totalement consommées et ils n'arriveraient jamais. La race s'éteindrait. Est-ce que l'humanité ne va pas s'éteindre à force de jouer sans les réserves spirituelles? Est-ce qu'elle ne va pas s'éteindre? Et là, réveillons-nous, réveillons-nous. Sans l'avoir appris de leurs parents, ils volent en vie, de manière organisée, consentie par tous, ils se réveillent à la tête, tour à tour, ils économisent l'énergie, ils arrivent au bon port, ah voyez, ils arrivent à 130 grammes, ils ne sont pas dépourvus de vitalité, ils vont se requinquer, pour quelques mois plus tard repartir. Et nous, qui nous dirige? Qui nous procure la bonne technique de vol, le bon repérage de la bonne direction? Qui nous procure la solidarité dans le vol? Qui? Jésus a promis le Saint-Esprit pour nous conduire. Jésus a promis que le Saint-Esprit nous rappellerait tout ce qu'il a enseigné, toute la vérité. Est-il à l'œuvre en nous? Sommes-nous nés de nouveau? Sommes-nous nés de nouveau, les amis? Mes frères et sœurs, tout ça, c'est l'image de la foi. Quand Vincent a présenté l'autre jour le pluvier doré, je me suis dit, mais c'est un thème en or. Et moi, j'avais regardé plusieurs choses sur des animaux, comme le phoque. Il y en a d'autres, hein, on peut passer des heures. Ça vaut la peine. C'est surprenant ce que dit Alphée, hein? Surprenant! Au fond des fosses abyssales, hein, la fosse des Mariannes, dans le Pacifique, 7800 mètres, 8300 mètres, de profond, de flotte. Vous savez bien que les petits bathyscaphes et tout ça de Nicolas Hulot, Cousteau, ils descendent à 1000 mètres maximum. Ils avaient un bateau super équipé, ils ont descendu un bloc avec des câbles, 4 câbles, jusqu'à 4300 mètres, dans lequel les gens étaient, ils photographiaient. Incroyable ce qu'on voit. Une merveille, des merveilles incroyables. Inouï ce que Dieu a fait de beau dans les océans, sur les rochers, tout ça. Il y a des montagnes avec des vallées. Mais tout ça, c'est dans les psaumes. Il n'y a pas besoin des bathyscaphes et des bateaux pour le savoir. C'est dans les psaumes. Je l'ai lu cette semaine. Alors, À un moment donné, l'appareil qu'ils avaient fait était insuffisant pour aller à 8300 mètres. Eh bien, ils ont créé un autre appareil plus résistant, hein, qui résiste à 20 ou 30 kilos de pression au centimètre carré. Imaginez ce que ça donne sur un appareil. Et alors, ils le lâchent à un moment donné. Le premier appareil à 4300 mètres, tout d'un coup, il lâche un autre, il y a un câble qui descend, qui descend, qui descend, et l'autre appareil arrive au fond, parce qu'ils ont tapé juste, hein, avec des lasers, toutes sortes de choses, et il se dépose. Et là-dedans, il y a des ordinateurs, il y a des caméras, et ils observent. Et ils ont mis sur tous les rails alentours, qui permettent à l'appareil de se poser, des poissons. Ils ont lié des animaux, des poissons, toutes sortes de choses à manger. Et puis, ils ont attendu des heures. Puis il est arrivé des poissons. Il est arrivé toute une série de poissons qui vivent à 8300 mètres. Comment que ça se fait que des pressions pareilles, les poissons arrivent vivre. Et puis après, ils ont vu arriver des espèces de petites crevettes qu'on appelle les krills. 1 million au mètre cube. Une fois qu'elles ont repéré l'appareil avec tous les déchets, ils les prenaient en caméra, ils ont calculé 1 million au mètre cube. Vous savez que c'est la nourriture des baleines. Quand les baleines circulent dans l'océan, elles ouvrent 10 mètres cubes d'eau, ça fait 10 millions de krill. Et tout ça, il y a des fanons pour trier. Pas que les krill, ils se nourrissent de ça. Vraiment, tout ce qui est mis dans le livre de Job, tout ce qui est mis dans certains psaumes, se trouvait dans ce film. Et il y a mieux dans la révélation divine, lorsque Jésus sera là. Il y a beaucoup mieux. Alors, dans Hébreux chapitre 11, nous avons vu que la foi... Hébreux chapitre 11, c'est un verset, bien sûr, qui est, j'espère, qui sera à étudier un jour, et qu'on va en faire un des éléments de la réserve spirituelle de nos vies. J'insiste pour qu'il y ait des réserves spirituelles en nous. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on soit comme ça. On traverse le désert sans eau, sans manne. C'est Dieu le rocher, c'est Dieu qui donne la vie, qui donne la manne. Où elle est la manne, si on ne la prend pas? Alors, Hébreux, chapitre 11, le verset 1, si quelqu'un veut le lire avec une bonne voix.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Voilà. Alors, c'est pour l'avoir possédé que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Où? Ben, à travers toute l'histoire d'Israël, à travers la Bible et à travers les prédications du monde, évidemment. Alors, cette fois-là, regardez en Hébreux 12, verset 1. Normalement, Lefèvre d'Estampes, qui a classé la Bible en chapitres, hein, au XVIe siècle, et en versets, ou au XVe, je ne sais plus, il aurait dû, si vous voulez, tenir compte de l'unité littéraire. Il aurait dû terminer, si vous voulez, plutôt, le chapitre 11, un peu plus loin. Hein? Un tout petit peu plus loin. Il y a 2-3 versets qui sont dans le chapitre 12. Mais bon, ce n'était pas vraiment de l'analyse littéraire qu'il faisait, c'était de la... Il a fait ce qu'il pouvait. Hein? La Bible est immense. Et ça est resté, cette classification, chapitre et en verset, à travers le monde. Avant la Bible, avant lui, elle n'était pas en verset, en chapitre. Courez toujours pour s'y retrouver. Il fallait avoir une mémoire dingue. Il fallait y aller tout le temps. Tandis que là, avec ça, on a des moyens. Quand Vincent vous apprend un verset, il y a un chapitre, il y a un livre, il y a un verset. Mais avant, tout est en majuscule. Tout en majuscule, l'un derrière l'autre, sans interruption. Alors, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc tous ceux cités au chapitre 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, le fardeau, c'est les lois, hein? C'est les culpabilisations, c'est les culpabilités, c'est les habitudes religieuses, c'est les enseignements charnels venus des parents et de la société. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, donc ce péché, l'orgueil de vivre sans Dieu, venu d'Adam et Ève, cet orgueil de définir le bien et le mal par nous-mêmes, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous savez qu'à l'époque où ces textes sont écrits, en Grèce en général, Olympe et tout ça, Corinthe, pour tous les Jeux olympiques, on appelait ça comme ça avant, c'était les Jeux corinthiens, il y en avait d'autres, il y avait 5 villes. À tour de rôle, on faisait tous les ans. C'était souvent une immense carrière qui a été faite, et il y avait des gradins de chaque côté, et puis c'était plat, c'était une immense carrière. Et on faisait tous les Jeux là. Et il n'y avait que des hommes, et tout nus, pour faire les sports. Alors, ceux qui faisaient les compétitions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le mot carrière vient d'abord de ça, parce que c'est la compétition, c'est la course, c'est l'épreuve, et c'est la victoire. Alors, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, pour gagner, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, donc le rejet, les moqueries, tout, il a tout méprisé, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus, le chef de la foi, il faut d'abord dire ceci, c'est le mot, c'est initié, c'est celui qui nous fait rentrer dans la foi. Hein, le mot, au départ, c'est plus que chef, il nous fait rentrer dans la foi. Jésus nous fait rentrer dans la foi. C'est par la porte de Jésus, par le chemin de Jésus, le petit chemin étroit. Je suis chemin, la vérité et la vie. Et la deuxième chose, le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui perfectionne la foi, qui la sanctifie, qui la conduit. Ok ? Ça, c'est très important de prendre les deux versets du chapitre 1 et du chapitre 11 et chapitre 12 au début pour voir. C'est une inclusion, on appelle ça. Et tout ce qui entre, ça prend son sens grâce à ces deux versets-là. Alors, les oiseaux, les pluviers dorés, ont rejeté toute solution qui aurait été fatale pour eux. Ils ne sont pas restés en Alaska. Ils n'étaient pas prêts pour partir avec les parents. Ils sont partis plus tard. Ils ne sont pas restés en Alaska. Le froid allait venir, ils seraient morts. C'est la même chose quand Abraham a quitté Ur en Chaldée, ce pays d'occultisme, ce pays de libertinage, d'astrologie, de sacrifice humain. Hein? Eh bien, il fallait qu'il parte, il ne pouvait pas rester là, il allait périr, comme tous les autres. Il voulait avoir la vie. Il voulait avoir la vie et il avait le désir de partir dans une direction comme ces oiseaux-là, ne sachant pas où il allait. Mais chapitre 12, verset 1, Jésus, le Christ, conduisait sa marche. C'est ça qui est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1. C'est le Christ, le chef de la foi. C'est le Christ qui donne la foi. C'est le Christ qui conduit Moïse dans le désert, qui ouvre la nuée. La mer Rouge. Et vous voyez ça dans 1 Corinthiens 10, verset 4 ou 14. Hein? Et donc, pratiquement, c'est le Christ qui est toujours à l'œuvre. Dans le salut, c'est l'outil, la cheville ouvrière du salut, à toute époque. Et en tout lieu. C'est pour ça que dans les Actes des Apôtres, Paul dit, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel et sur la terre par qui les hommes peuvent être sauvés. Ça prend son importance, les amis. Ça prend véritablement son importance. Alors, rappelez-vous, la solution des oiseaux pluviers fainéants, c'est de rester en Alaska et d'y mourir. Beaucoup d'hommes sont paresseux, ne veulent pas prendre les bonnes décisions et ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Et pourtant, les pluviers donnent une leçon, ils partent tous. Si, alors je vais prendre, qui sont les pluviers dorés dans la foi chrétienne et juive? C'est les prophètes, c'est Jésus, c'est tous ceux qui ont cru en Christ, qui ont donné leur vie à Christ. Ça, c'est les vrais pluviers dorés. Ils partent, ils ne restent pas là où ils vont périr. Fouillez cette génération perverse. Clairement, c'est mis. N'aimez pas le monde, ni l'orgueil du monde, ni la folie du monde. C'est clair. Alors, les hommes et les femmes de foi marchent par l'Esprit de Dieu, tels ces oiseaux-là. Ils ont rejeté les fardeaux inconvenants, reçus du monde. Ils ont rejeté les mauvaises pensées du monde. Ils ont rejeté tout ce qui est des faux guides, des faux docteurs, des faux messages. Et ils sont préparés par Jésus pour aller vers Dieu. Quand Jésus dit dans Jean chapitre 12, « Quand j'aurai été élevé, c'est-à-dire mis sur la croix et ressuscité, j'élèverai tous les hommes à moi. Je les attirerai à moi. » C'est le mot « séduire » en grec. Alors, il y a une force d'attraction vers Jésus. Je pense que le moment, comme la population est désemparée là, le moment est venu que chaque chrétien, où il est, c'est pas une question de pasteur tout ça, où il est, ouvre sa bouche. Parce que on va rater le coche. Le moment est favorable pour parler du salut. Quelqu'un dans la semaine me dit, mais qu'est-ce qui va nous sauver de tout ça? Ça vient presque spontanément dans la bouche. Les difficultés qui viennent doivent encore augmenter pour que les gens cherchent le Sauveur. Et que les chrétiens ne soient pas dans le même état mental que les gens qui n'ont pas Christ. Ça, c'est grave. Il faut avoir des réserves spirituelles comme le phoque. Et il ne faut pas s'empoisonner avec l'air qui produit du gaz carbonique. Il faut s'enrichir de l'oxygène de Dieu, de sa parole, du Saint-Esprit. Alors, ces hommes qui sont cités au chapitre 11 ont couru avec persévérance dans l'espace ouvert, dans la carrière préparée par Dieu. Mais il y a une compétition. Il fallait arriver, pas être les perdants. Ça veut dire que dans tous ceux qui partent, il y en a qui vont échouer. Il y en a qui ne gagneront pas la compétition. Pourquoi ? Parce qu'en cours de route, en cours de chemin dans la foi, un petit chemin à gauche dans l'impureté, un petit chemin à droite dans le mensonge, un petit chemin encore après dans des affaires louches en argent, un petit chemin après dans des affaires de films X à la télévision, personne ne me voit, je regarde ça pendant des heures. Un petit film dans quoi ? Ben, je pars à ma femme dort, ou mon mari dort, je pars à 1h30 du matin, 2h, et roupie comme une tronçonneuse. Je pars pendant 1 heure en voiture, je vais chez quelqu'un d'autre, et je reviens, ni vu ni connu, je me suis soulagé, et je reviens. Ça existe, ça. Moi, comme je ne dors pas beaucoup, j'observe. Parfois je sors même, je suis dehors en train de me promener pour prier, j'observe. Les hommes sont, et les femmes ne sont pas si innocents que ça. Mais les chrétiens dans leur vie chrétienne peuvent faire la même chose que le monde. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'aimer Jésus-Christ. Ils sont appelés à aimer Jésus-Christ. Ils ne sont pas obligés d'écouter et de laisser faire le Saint-Esprit. Il faut beaucoup d'amour pour écouter le Saint-Esprit, beaucoup d'amour pour refuser les tentations, refuser les œuvres de la chair. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup d'obéissance. Beaucoup d'obéissance. Donc le chemin de tous ces authentiques croyants à travers l'histoire, c'est un chemin d'amour, un chemin d'obéissance. Alors l'autre jour, nous avons déjà parlé de quelques-uns. Nous allons reprendre Abel. Verset 4. Il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui qu'un. Mais bien sûr, Dieu a mis une peau de mouton, il a sacrifié un agneau, il a mis la peau de mouton et la représentant Christ sur ses parents. Un choisit de faire une religion et de se prouver à soi-même qu'il est un fidèle croyant et de gagner Dieu, de séduire Dieu, c'est qu'un, mais ça ne marche pas avec Dieu, son sacrifice est désagréable. Le deuxième, Abel, a à la foi dans la venue de Christ, l'agneau sacrifié qui ôte le péché du monde. Et il fait le sacrifice de l'agneau, qui préfigure la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, il y a eu, plus loin, il y a eu Enoch, au verset 5. Enoch a vécu comme Abel. Enoch a loué le Seigneur, et il a prophétisé. Il a parlé au nom du Seigneur. Il a été enlevé. Pourquoi est-ce que Dieu l'a enlevé et il n'est pas mort ? Parce que Dieu a voulu montrer que la mort n'aurait pas toujours autorité. La mort n'aurait pas toujours autorité, même si elle règne. Nous allons tous mourir, probablement, à moins que Jésus revienne demain, hein, ou après-demain. Mais ce qu'il y a, la mort n'a pas le dernier mot. On le voit bien dans Osée, chapitre 13, verset 12. « Ô mort, où est ta victoire ?» était engloutie, la mort, par Jésus-Christ. Alors, ce qui se passe, c'est que Enoch est le témoignage que Dieu a le dernier mot sur la mort. Il lui évite la mort. Et il le fait monter au ciel. Après, il le fait pour Élie. Après, il le fait pour Christ. Qu'est-ce que Enoch représente pour tous les croyants de cette époque-là? C'est le témoignage que Dieu est fidèle. Il n'a pas voulu la mort. La mort, c'est Adam et Ève qui ont signé en bas de la page pour qu'elle arrive. C'est pas Dieu qui a voulu la mort. C'est pas Dieu qui a prêché le péché à Adam et Ève. Comprenez, c'est le témoignage de la victoire de la vie. Et continuons, nous allons à Noé au verset 7. Noé est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc il sait que l'humanité est en train de se déglinguer au niveau sexuel et au niveau guerrier, au niveau des guerres, d'une façon folle, dingue. Dans Genèse chapitre 6, nous voyons que les fils de Dieu, c'est les démons, hein, en hébreu. Les fils, les démons, virent que les femmes étaient belles. Donc, c'est des femmes qui s'habillent n'importe comment et tout, qui sont volages. Et les démons habitent les hommes, des hommes qui, en les voyant, deviennent foudingues, et il y a copulation. En veux-tu, en voilà. Il y a perversion des mœurs, et ensuite, il naît les plus grands conquérants du monde. De toutes ces relations sexuelles détraquées, diaboliques, démoniaques. Alors Dieu dit, il faut que je déblaye tout ça, il faut recommencer. Il va juste garder Noé qui marchait de manière intègre, qui appliquait de manière loyale et droite ce que Dieu lui demandait. C'est un témoignage important. Il a divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu rétribue le mal et rétribue le bien. Tout à l'heure, le verset que nous avons appris, c'est ça. Il rétribue, il est le rémunérateur. Et Noé l'a pris au sérieux. Noé était conduit à prêcher pendant 100 ans. Et puis Noé a construit l'arche. Elle était ouverte, l'arche. Tout le monde la voyait. Venez, rentrez. Écoutez ce que j'ai dit. Mettez-le en œuvre. Et puis au moment de... C'est pas Noé qui ferme la porte, c'est Dieu qui ferme la porte de l'arche. Et quand l'arche, après le déluge, est libérée du déluge, l'arche est sur la montagne, on ouvre la porte. C'est Noé qui ouvre la porte, ou Dieu, je ne me rappelle plus, mais c'est quand la colombe revient qu'un rameau. C'est quand même bizarre que la colombe de Noé et la colombe de Jésus à son baptême sont les mêmes. Et que le rameau représente la vie, un rameau d'olivier. Et la colombe sur Jésus au baptême, est-ce que vous faites un parallèle du renouveau de la vie, de la nouvelle alliance? Dieu redonne sa chance aux hommes avec Noé, Dieu redonne une chance plus grande à tous les hommes avec Jésus-Christ. Où est l'arche dans laquelle Noé était enfermé? Pour Jésus, où est l'arche? Le tombeau, 3 jours. Quand Jésus est dans le tombeau, 3 jours, qu'il meurt à la croix, c'est le monde qui périt en Christ. C'est le monde qui est condamné sous la colère de Dieu en Christ et qui est enterré. Quand les anges, psaume 91, ouvrent le tombeau, quand Christ, dans son corps, qui n'a pas connu la corruption, est sorti avec les anges, psaume 16, c'est le témoignage de la victoire de la vie sur la mort et sur le péché. Donc Noé préfigure la mort et la résurrection de Jésus. Ok, continuons plus loin, il y a Abraham. Et Abraham, qui était en Ur en Chaldée, au sud de l'Irak, pays de Chinéar, le pays où Adam et Ève ont péché, ont écouté Satan, et bien, et dans... dans un des prophètes, je ne sais plus lequel, c'est dans Zacharie ou je ne sais plus lequel, la plus grande iniquité à la fin des temps part, elle est déposée dans le pays de Chinéar. La grande iniquité qui va couvrir le monde, elle démarre du pays de Chinéar, c'est bizarre. Et alors, mais tout ça, je n'ai pas les versets en tête pour le moment, ça ne me revient pas. Alors, Abraham, il part, il obéit, et sans savoir où il allait. Regardez au verset 8. Le plus vieux de Ré ne connaissait pas Hawaï. La nouvelle génération ne connaissait pas Hawaï. Ils sont partis. Et Abraham ne connaissait pas la terre de Judée, la terre promise, le mont Morija, le mont où il va sacrifier l'agneau. Là, l'agneau, Yahvé, j'irai, je pourvoirai, là où Christ va être condamné, crucifié. Mais il y a été quand même. Conduit par l'Esprit Saint. Sommes-nous conduits par l'Esprit Saint, les amis, pour aller au-delà de ce que nous voyons, au-delà des apparences, au-delà des sentiments, des sensibleries, des découragements, au-delà de nos misères, qu'on ait mal partout, qu'on soit en chaise roulante ou paralysé, si on a la foi. Je fais des études bibliques toutes les semaines avec une petite dame. Elle n'est pas plus haute que ça. Elle a 58 ans. Toutes ses vertèbres sont soudées depuis le bas jusqu'en haut depuis sa naissance. Elle est couverte de douleurs depuis sa naissance. Les antidouleurs les plus puissants ne font plus effet. Elle a une foi. Toutes les semaines, quand elle ne sait pas porter la Bible, elle l'a tout paralysée. Tout est racrapoté. Dieu l'instruit par des songes. Dieu l'instruit par... Elle a regardé un film sur Jésus. Quand on lui donne des films, elle les regarde. Et puis tout est emmagasiné dans sa mémoire d'une manière incroyable. Elle fait la réserve, le stock, comme les pluviers dorés. Comprenez-vous? Elle ne vit pas dans le superficiel. Dans j'oublie, ça passera bien, ça sera pour une autre fois. Et quand j'arrive, je dis, quelle nouvelle. Je prends un petit siège, je m'assieds en face, pour être en face d'elle, pas plus haut. C'est pas lever la tête, ni à baisser, ni à tourner. Et puis, elle me regarde dans les yeux. Et puis elle me dit, voilà ce que j'ai pensé, ce que j'ai vu dans le film, et voilà ce que j'ai dans mes rêves, dans mes songes, ce que le Seigneur m'a dit. Alors je vais dans la Bible, et maintenant j'ai trouvé je suis un peu un petit filou, j'ai pris Thierry avec moi. Maintenant, j'ai pris Thierry avec moi, il s'assied à côté, et chaque fois je dis, ben ça c'est dans tel texte de la Bible, et Thierry le lit. Ce que je veux savoir, ce que je veux voir, c'est que le témoignage de dans son apparente misère, où elle est extrêmement riche, que lui qui voit sa misère, il ne s'apitoie pas sur sa misère. Parce que ne s'apitoie pas sur elle-même ni sur sa misère. Elle a le regard tourné vers le Seigneur, comme dans le chapitre 11, l'Hébreu. Et ce que je voulais, c'est que, bientôt, au bénéfice de la foi, parce que son témoignage est plus performant, plus solide que ce que je peux raconter ici. Alors, parce qu'on peut se déprimer, on peut se décourager, on peut voir la vie en noir, parce qu'il n'y a plus rien qui va comme avant. Mais alors, il n'y a plus jamais rien qui a été comme avant, parce qu'un avant, il n'y en avait pas. Il n'y a que eu de la misère depuis. Alors, ne nous apitoyons pas sur ce que Dieu nous a donné et qu'il nous a repris. Il faut qu'il nous apprenne aussi à dire merci et à savoir que ce qu'il donne, il peut le reprendre. Parce qu'autrement, nous sommes comme des enfants gâtés. Papa, maman, grand-père, grand-mère vont toujours donner. J'exige, je hurle, ils donnent. Ils ne me refuseront jamais rien. Mais si moi, je vis comme chrétien ainsi, je prends Dieu pour qui? Le témoignage. C'est un témoignage formidable. Formidable. Et c'est un exemple. C'est un exemple. Et donc le témoignage d'Abraham est un exemple. Pourquoi? Parce qu'il était dans une terre de misère corrompue et il part vers la terre de Judée qui est désertique. Et vous savez qu'à ce moment-là, au niveau archéologie, il est prouvé que des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de sémites sont partis de Judée, de Syrie, pour s'installer à Chinéar, au sud de l'Irak où c'était prospère. Donc c'était l'inverse. Il a fait l'inverse du monde. Il a fait l'inverse, l'opposé. Pourquoi fait-il l'opposé ? Parce que Dieu est opposé au monde. À ses fausses valeurs. Et ce monde avec ses fausses valeurs est bientôt sous la colère de Dieu. Il faut qu'il comprenne. Et quand c'est serré de plus en plus, il y a des gens qui vont se repentir. Ça, c'est la deuxième épître de Pierre. Dieu est patient. Dieu est patient. Il veut qu'ils se repentent. C'est pour ça. Où est-il le jour, etc. Il y en a qui se moquent. Et cette critique permanente contre la foi chrétienne, la promesse du retour de Jésus et du juste jugement de Dieu sur les nations, cette critique permanente, cette moquerie, Pierre dit clairement, c'est parce que Dieu use de patience afin que ceux qui doivent être sauvés soient encore sauvés. Alors, mettons-nous à l'œuvre, les amis. Tous. On ne sait pas si notre voisin, d'au-dessus, d'en dessous, celui qu'on appelle schizophrène ne peut pas être sauvé. Le chauffeur d'autobus, le cordonnier, le boulanger, le postier, le docteur, monsieur le notaire, monsieur le maire, qui n'est pas plus que nous, qui a un mandat pour un certain temps, il a besoin d'être sauvé aussi. Et évidemment, notre facilitateur de projet, dans le cadre de la maison de prière, qui nous a remis notre dette, lui aussi a besoin d'être sauvé, cet homme. Il faut prier pour lui. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de notre cher Abraham ? Verset 10. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait. Ça va ? C'est clair. Et qu'est-ce qu'il attendait ? Ben regardez, au verset 16, hein, tous ces gens-là, comme Abraham, comme Sarah, hein, ils désirent une meilleure patrie, une céleste. Parce qu'au verset 15, il a mis, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, donc ils pouvaient retourner en Irak encore. Ils étaient déjà dans le nord de la Mésopotamie, ils n'étaient pas encore en Syrie, ils pouvaient retourner. Mais non, il a continué. Le plus vieux doré qui a fait 200 km, il quitte l'Alaska. Oh non, hein. Oh non, c'est trop. Hein. Ah, je suis crevé, moi. Ah, je retourne. Pon. Est-ce que des chrétiens ne font pas ça des fois ? Est-ce que des chrétiens ne sont pas tentés de faire ça ? Alors il est mis clairement. Maintenant, ils en désirent une meilleure patrie, une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte de celui qui garde le cap et qui va répondre à son appel. Vous l'avez vu, on l'a vu ce verset, et Vincent avait trouvé l'autre verset. Au chapitre 2, que Jésus n'a pas honte d'être appelé notre frère. Il est mort sur la croix pour nous, il sait bien de quoi on est fait. On sait, il sait très bien nos faiblesses, il sait très bien tout ce qui se passe. Il n'a pas honte d'être appelé notre frère. C'était Hébreux 2, je ne sais pas. 2, verset 11. Donc ces deux versets-là, dans l'épître aux Hébreux, c'est clair. Une fois, c'est Christ, il n'a pas honte de nous appeler frère et de nous amener à Dieu. Donc il conduit notre vol et il passe devant. Et parce que nous, chrétiens, ce n'est pas toujours brillant. Hein? Eh bien, il passe devant. Et c'est le garant, la caution, l'avocat divin, le berger. Et puis, Dieu, lui non plus, n'a pas honte. Il n'y a que nous qui sommes tiraillés par des hontes sur des péchés passés. Il n'y a que nous qui sommes tiraillés par des péchés qui nous tentent encore, qui nous font honte. La honte n'est pas en Dieu. Une fois qu'il a sauvé quelqu'un, qu'il a pardonné ses péchés, la honte n'est pas en Dieu. Il n'y a pas de colère sur le pécheur pardonné. Il y en a qui le savent dans notre église ici. Il y en a qui le savent. Je ne lève pas les yeux parce que on est une bande de coquins ici. Mais il est clair qu'on a tous fait des choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Et des fois, on se dit, mais heureusement que notre salut est par grâce à la croix. Parce que là, on est foutu, hein. C'est raté d'avance. Hein. On a beau venir au culte et croire lire la Bible, hein. C'est raté d'avance. S'il n'y a pas eu ces actes de justice de Dieu pour dire « Je te pardonne tes péchés, je te regarde comme juste, innocent », c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Et c'est comme ça qu'il a vu Abraham. Parce que Abraham n'a pas été brillant. Hein. Le fait qu'il fait un gosse à Agar. Et puis après, il y a encore une autre femme, Ketura, plus tard. Il faut lire la Bible, vous allez voir. C'est pas des petits saints, les patriarches. Il y a beaucoup de choses qu'il a grattées aussi. Comme tous les humains d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, notre Abraham? Eh bien, au verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ah. C'est pour ça qu'il osait offrir Isaac, au verset 17. Il osait offrir Isaac, au chapitre 17, et il dit à Isaac, on redescendra de la montagne. Parce qu'il savait que Dieu était capable de le ressusciter après le sacrifice. Le sacrifice était nécessaire pour le péché, et une résurrection était promise après. Mais c'était pas celle de son fils. Isaac, c'est celle de Jésus. Et quelque chose dans ce mille-blic qu'il y a eu. Hein? Mais c'est Dieu qui l'a éclairé après. Alors, au verset 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ensuite, Isaac, Jacob, vous le voyez, hein? Et Joseph ont marché par la foi. Ensuite, il y a Moïse, au verset 23. Moïse, il y a un génocide. Moïse échappe au génocide dans un berceau qui flotte sur l'eau, où il y a des crocodiles, le Nil. Il tombe dans les mains de la princesse. Et puis la princesse le confie à qui, sans s'en rendre compte? À la sœur de Moïse, Myriam, et à sa mère, qui va le nourrir et l'élever. C'est incroyable! C'est incroyable comment que c'est mené! Comment que c'est possible que ce Moïse ait été préservé comme ça? Voilà qu'il retourne à sa mère, par la princesse, la fille de Pharaon. Comment se pourrait-il que notre Église n'ait pas des miracles comme ça? Comment se fait-il que l'œuvre de Christ n'aurait pas des miracles comme ça ici? Jette ton pain sur l'eau, il est mis dans un certain texte de la Bible. Jette ton pain sur l'eau, et Dieu te le rendra, il fera revenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Agir par la foi. La foi ne discute pas avec Dieu. La vraie foi ne discute jamais avec Dieu. Elle se confie dans sa puissance. Alors, Moïse est tellement beau. Hein, vous voyez ça, verset 23, tellement beau. Eh bien, ben oui. Ils veulent le garder. Beau de quoi? Tous les bébés sont beaux, les amis. Ils ont vu la vocation de Moïse. Beau, ils ont ressenti la vocation, l'appel de Dieu sur cet enfant. Autrement, c'est des pans, c'est des orgueilleux, ces gens-là. Les autres enfants dans la famille et autre part sont beaux. Les enfants de Mouguema sont aussi beaux que ceux de Vincent et de Véronique. Et que de Viviane. C'est quoi beau? C'est choisi par Dieu. Choisi par Dieu pour mener une vie d'excellence. Une vie prophétique. Alors, notre chair grandit, bien sûr, et au verset 27, il grandit et il est dirigé. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Tous les films qu'on monte, on voit qu'il a peur de Pharaon et qu'il se sauve, hein. Mais là, il part sans être effrayé par la colère du roi. C'est quand même bizarre que le texte, des fois, est mieux que les films de la Bible. Hein? Et pourquoi? Parce qu'au verset 26, il dit « Il regardait l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » La rémunération, c'est Christ. C'est Christ, la rémunération. Paul dit « J'ai été saisi par Christ et je cours afin de le saisir. » La rémunération, c'est Christ, pour nous aussi. Et donc, Moïse avait une révélation de Christ. Moïse a quitté l'Égypte en cherchant Christ. Il va dans le désert, derrière les brebis. C'est quand même formidable, 40 ans, en attendant Christ. Ils n'étaient pas super modernes comme aujourd'hui. Nous, au bout de 5 minutes, on en a marre, on cherche déjà autre chose. 2 jours, 3 jours, puis... Il n'était pas super moderne, il était très patient et il attendait la révélation de Christ. Et pourquoi? Mais regardez au verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Pourquoi ? Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il a une perception spirituelle de Christ, le salut du monde, le salut d'Israël. Et il est à son service. Il ne sait pas encore comment. Il ne sait pas encore comment, mais il sait qu'il est appelé. Il est tellement appelé qu'il va rester 40 ans en attendant le buisson ardent. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous nous mettons dans la prière et l'adoration et nous savons attendre que Dieu nous montre ce qu'il veut? Nous avons tellement la bouche, tellement habitué à réagir au quart de tour qu'on n'attend jamais Dieu. On croit en Dieu, mais on n'attend jamais. Il n'a qu'à nous suivre. Mais non, le vrai Dieu nous demande de le suivre. Ce n'est pas à lui de nous suivre. Alors, après, il y a Jéricho, au verset 30. Et Jéricho, ce n'est pas Moïse. Moïse est mort sous le mont Nebo. Alors, c'est qui, à Jéricho? C'est Josué. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu deux espions qui sont partis avant la conquête de Jéricho, qui ont visité Jéricho, qui sont cachés. Oui, mais la population s'est rendue compte qu'il y avait deux lascars, des Hébreux là, et ils ne voulaient pas. Alors ils cherchent, mais il y a une prostituée qui les cache, Rahab. Et Rahab, cette brave Rahab, qui est dans la généalogie de Jésus, donc c'est une arrière-arrière-grand-mère de Jésus, hein, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et c'est clair, elle savait, hein, dans la discussion qu'on voit avec les deux espions, elle savait que le Dieu d'Israël est terrible. Elle le craignait. Elle savait, vous êtes venu chez nous, le Dieu d'Israël va venir ici, Jéricho est cuit, c'est fini. C'est quoi ça, cette idée-là? Cette idée-là, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, il peut y avoir des gens, soit dans la prostitution, soit dans des affaires mauvaises, qui tout d'un coup ont la perception intérieure que tout est cuit. Ils observent les évangéliques du coin de l'œil, ils entendent des émissions, ils voient, ils disent, ils ont raison. Et moi, je tremble. Je tremble, je sais que tout est foutu. Je ne sais pas où me mettre. Je ne sais pas où me mettre, je ne sais pas où est-ce que je vais devenir. Mais ils savent que le Dieu qui est en train de se manifester, qui va se manifester, est terrible, est grand. Sa colère est grande pour les pécheurs. Sa miséricorde est immense pour celui qui se repent. Mais comment peuvent-ils savoir que la miséricorde est immense? C'est les deux espions qui donnent une écharpe rouge, une belle écharpe rouge, et ils vont la mettre à la fenêtre. Et quand toutes les murailles vont s'écrouler, parce qu'ils ont prié, ils ont tourné à l'entour de la ville, et c'est prouvé, on a retrouvé ce vieux Jéricho, il y en a deux, hein. Ce vieux Jéricho, il y a eu un tremblement de terre, et nous, ils ont été rasés, hein. En 5 minutes, c'était à terre, hein. Et bien, les Hébreux sont rentrés, et ils ont trouvé la maison avec l'écharpe, et ils avaient la consigne de ne pas y toucher. L'écharpe rouge représente le sang. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Le sang de Jésus sera versé pour Rahab. Elle sera dans les élus, dans les sauvés. La preuve, c'est qu'elle est citée dans Hébreu. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. C'est dans Hébreu aussi. Et l'écharpe rouge, c'était la foi d'un pardon par l'effusion de sang, le sacrifice de Christ. Ce que ces deux Hébreux ont toute la nuit discuté avec cette Rahab, nous ne savons pas. Imaginons maintenant que c'est un Alexander et un Christian Fink qui vont trimballer dans Jéricho. Et puis qui tombent, ça y est, ils sont cernés, on va faire quick. Et puis, oulala, Rahab les invite, les cache sous des tas de fagots au-dessus du toit. Mais ils ont le temps de discuter avec. Et elle écoute tout. Avec sa famille, elle écoute tout. Et ils disent, voilà une écharpe rouge, tu la mettras quand on va arriver, tu la mettras à la fenêtre. Pourquoi? Parce que la discussion qui s'est passée là, entre cette femme, sa famille et ces deux hommes, était une source de salut. Alors la question est la suivante. Vos conversations dans les cafés, à la poste, à la déchetterie, au fond du jardin, au magasin peuvent-elles être source de salut pour des rares? Vous êtes missionnaire, ne l'oubliez pas, sous le sang de Christ, comme ces deux hommes avec l'écharpe rouge. Vous êtes missionnaire sous le sang de Christ. Tous. Que dirais-je encore au verset 32 ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes. Hein ? Il est en train de prêcher, c'est Apollos. Hein ? Et qu'est-ce qui se fait ? Mais il faut que j'arrête. Hein ? Ils vont tous dormir si ça continue. Alors, qui par la foi vainquirent des royaumes ? Est-ce qu'il y en a dans ceux qui ont là qui sont cités, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, il y en a qui ont vaincu des royaumes? Oui, hein. Bien sûr, Gédéon a vaincu les Amalécites, David il a vaincu les Cananéens, les Ammonites, les Moabites, les Édomites, hein. Et qui? L'autre, Samson, les Cananéens, Jephthé. Oui, Jephthé, il a encore fait carnage, Amon. Et qui d'autre?
Barak et Déborah.
Oui. C'est qui, Barak?
C'est avec Déborah.
Oui.
Oui, Barak. Bah, il était censé se battre, mais c'est elle qui a pris les décisions parce que lui ne voulait pas les prendre.
Bah, écoutez.
Elle a dit si tu n'agis pas, la gloire reviendra à une femme, sache-le.
Mais c'est une. C'est une leçon. C'est une leçon. La gloire peut venir sur une femme, pas toujours sur les hommes. C'est trop facile, ça. Mais combien de fois, moi, j'étais au fond du panier et que c'est ma femme qui m'a remonté les bretelles ou qui a prié pour moi. Barak. Baraki, parfois, hein. Oui, Baraki. Il se dégonfle et il ne fait plus rien. Ça m'est arrivé de ne plus avoir envie de faire rien du tout. Et puis je dis, mais ça c'est pas possible. Alors je demandais pardon, et puis je reprenais ma voiture et j'allais faire des visites. À toujours des cas compliqués en plus. Et puis je revenais, j'étais en forme, heureux. Pourquoi donc? Parce que la victoire est spirituelle, on n'en voit pas toujours les effets. Mais la victoire est à long terme. Elle n'est pas pour moi, elle est pour Christ. J'ai pas besoin de voir tous les effets. La victoire à venir, elle va nous exploser à la figure, pour nous qui avons la foi. En attendant, si nous ne voyons que les épines et pas les roses, il faut quand même marcher avec les épines. Alors, par la foi, vainquir des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions, c'est Samson, éteindre la puissance du feu. Les copains de Daniel, hein, Babylone, échapper au tranchant de l'épée. Qui?
Bah, tous les premiers chrétiens.
Il y en a beaucoup. Comment?
Ils n'échappèrent pas.
Pour le coup là, ils n'ont pas échappé.
Guérir de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Oui. Mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection.
Bah, les sœurs de Lazare.
Oui, les sœurs de Lazare, mais aussi la veuve de Sarepta. Oui, la veuve de Sunem, et puis alors le prêtre de Jairus, et la veuve de Naïn, oui, bien sûr, ils n'acceptèrent point de délivrance. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Ils n'ont pas renié leur foi, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ça, c'est encore actuel. Jérémie, ils furent lapidés, sciés. Mais vous rendez compte, sciés?
Je pense que c'est Ésaïe.
Ésaïe, probablement.
Scié vivant, Ésaïe, oui.
Seigneur.
Le brave type, Ésaïe, qui a servi Dieu pendant 70 ans, sous cadrois, il finit par se faire couper en... comme un cervelas. Ils sont gentils, hein, ses copains. Sciés, torturés, moururent, tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Apollos n'y va pas avec deux doigts de la cuillère. Hein.
C'est pas Apollos.
Et eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Le monde n'était pas digne d'eux. Donc les amis, où est la dignité? Puisque Dieu n'a pas honte de eux, puisque Jésus n'a pas honte de les conduire à Dieu, c'est qu'ils sont dignes. C'est qu'ils sont dignes. Ceux qui ont la foi sont dignes. Qui marchent par la foi sont dignes. Et cette dignité, elle dépasse tout. Elle dépasse tout. Ce qu'il faut faire quand on prend le temps dans la prière, dans la solitude, c'est de se rendre compte. Bon, il y a un moment où on doit confesser ses péchés, évidemment. Ce n'est pas brillant du tout. On doit être humilié ou s'humilier. Mais ce qui, à un moment donné, on en ressort digne. On en ressort digne, les amis. Il y a une dignité, il y a une sérénité dans le cœur, il y a quelque chose, on sait qu'on plaît à Dieu et qu'on peut continuer le chemin pour lui, avec lui, avec les petits moyens qu'on a. Cette dignité est précieuse, les amis. C'est les yeux de Dieu sur moi qui m'approuvent, qui me regardent, qui m'aiment. Cette dignité, je suis dans les yeux du Seigneur. Je suis précieux à ses yeux. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que l'Éternel a promis. Ben oui, Jésus n'est pas encore revenu. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. La perfection, c'est la vision de Christ, c'est le retour en gloire de Christ. Vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux que notre histoire des plus vieilles dorées, parce qu'eux vont envoyer, c'est pour retourner. Nous, non, là, c'est pour la gloire céleste. La gloire céleste. Romains, je termine avec Romains, chapitre 8. Approfondissez le thème de la gloire. Cherchez dans la Bible. Approfondissez, parce que vous verrez ce que vous allez recevoir et ce qui vous attend, qui n'est pas loin. C'est fantastique. C'est sympathique.
Romain quoi ?
C'est romantique, oui. C'est élastique. Non, la gloire de Dieu est fantastique. Je le dis, je blague, mais la gloire de Dieu.
Romains
8. Romains 8. Ah, quoi. Verset 28 jusqu'à la fin, si quelqu'un veut lire, parce que je suis fatigué. Merci. Bien fortement.
Romains
8, verset 28 jusqu'à la fin, avec une bonne voix.
Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment nous ne donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger ou la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on amène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort. Ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.